Pour souligner la Journée nationale de vérité et réconciliation vendredi dernier, nous nous posons aujourd'hui une question très simple. Est-ce que la loi sur les Indiens doit être abrogée? Rendlin Nanemaru-Kanline est une membre de la nation Cree-Bigstone du nord de l'Alberta. Elle est très connue dans la région de Plamondon et la Clabiche pour son implication dans le processus de la réconciliation, avec plusieurs participations à des célébrations de la Fête du Canada à la Journée de vérité et réconciliation, sans oublier les jours de la culture albertaine. Selon elle, le principal but des Premières Nations est l'indépendance envers le gouvernement fédéral.
To my understanding, when we signed treaties all those years ago, that they were meant to be for a few years and then these agreements could be revamped and revised to be more beneficial to both parties. But that never happened.
Toutefois, le système des pensionnats pour autochtones est venu troubler les cartes. Avec tous les traumatismes vécus, il est devenu plus difficile pour les Premières Nations de s'organiser pour revendiquer leurs droits. Quant à une refonte complète de la loi, Mme Kandline estime qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire.
There's still a lot of healing that needs to happen and a lot of leadership skills that need to be developed before we get there.
Madame Kandline ne voit toutefois pas de changement majeur dans l'avenir immédiat. Néanmoins, elle a beaucoup d'espoir pour les générations futures.
I do have hope because there's so many of our young people that are graduating with like law degrees and this generation, this upcoming generation, they're going to do big things.
Elle espère pouvoir vivre ces changements de son vivant. Selon l'Encyclopédie canadienne, la loi sur les Indiens tire ses origines avant même la création du Canada en 1867. En fait, la province britannique du Canada crée en 1755 le premier ministère des Indiens pour gérer les affaires entre le gouvernement colonial et les peuples autochtones. En 1763, une proclamation royale du roi George III établit les bases selon lesquelles le gouvernement colonial et les Premières Nations interagissent. La proclamation garantit certains droits et permet au gouvernement de racheter puis posséder les terres traditionnelles autochtones. Elle permet aussi au gouvernement de négocier des traités de nation à nation. Toutefois, plusieurs aspects changent dès 1850. Le gouvernement établit les critères selon lesquels un individu est légalement connu comme un Indien. À partir de ce statut, qui existe toujours aujourd'hui, le gouvernement établit en 1857 une loi qui oblige les hommes de 21 ans et plus à parler et écrire soit l'anglais, soit le français, et de choisir un nom de famille approuvé par le gouvernement. Cette loi force aussi les Autochtones à renoncer à leur statut s'ils veulent posséder 50 acres de terre. La Constitution de 1867 confère au gouvernement canadien le plein pouvoir face aux Premières Nations. Deux ans plus tard, le gouvernement adopte l'Acte sur le droit de vote graduel qui supprime plusieurs droits des Premières Nations. Devant cela, cinq traités numérotés sont conclus en 1871, soit cinq ans avant l'adoption de la loi sur les Indiens. Les nations des cinq traités ne sont pas concernées par cette loi. Les Premières Nations sont mécontentes du système colonial. Seule une personne accepte de renoncer à son statut pour intégrer la société canadienne. Le gouvernement crée donc en 1876 la loi sur les Indiens pour les contrôler et les assimiler via le ministère des Affaires indiennes. Avec la base que fournit la loi, de nombreux aspects de la culture autochtone sont interdits. Les femmes perdent leur statut si elles marient un homme non autochtone dès 1880. Quatre ans plus tard, sous la pression des missionnaires catholiques, des cérémonies et des danses traditionnelles sont interdites. Le même jour, le 19 avril, les pensionnats sont créés. Un an plus tard, les Autochtones ne peuvent plus sortir de leur réserve. Un premier amendement de la loi sur les Indiens en 1895 interdit toute danse ou cérémonie. La danse est interdite à l'extérieur des réserves en 1914, avant de l'être complètement en 1925. Les droits juridiques des Autochtones sont restreints en 1927, alors que le recours aux avocats ou de déposer des revendications territoriales sont interdits, sauf si le gouvernement fédéral l'autorise. Il faut attendre les années 50 avant que certains droits soient rétablis. Les femmes ont le droit de vote aux élections de bande et certaines cérémonies sont autorisées. Les règlements quant au statut indien des femmes, eux, sont inchangés. En fait, ce ne sera pas chose faite avant 1985. Les Autochtones obtiennent en 1960 le droit de vote aux élections fédérales sans perdre leur statut d'Indien. En 1969, le Livre blanc du gouvernement canadien propose de rendre les Autochtones égaux aux citoyens canadiens et d'abolir plusieurs documents légaux, dont la loi sur les Indiens. les critiques sont nombreuses. On dénonce surtout le fait que le gouvernement fédéral se déresponsabilise en déléguant ses responsabilités historiques aux provinces avec lesquelles les Premières Nations n'ont jamais entretenu de relations, quelque chose considéré comme un retour à la case départ. Le Livre rouge qui défend les droits ancestraux est déposé par le chef cri Harold Cardinal. Il est rejeté par le gouvernement canadien qui annule son Livre blanc peu de temps après. En 1975, ce que plusieurs considèrent comme le premier traité moderne est signé au Québec. L'entente, conclue entre les gouvernements du Québec et du Canada, Hydro-Québec et deux de ses filiales, puis le Grand Conseil des Cris du Québec et l'Association des Inuits du Nord du Québec, donne une certaine autonomie aux Autochtones du Québec. Au cours des années 80, le Canada perd une cause devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. L'année suivante, l'Assemblée des Premières Nations est créée et la Constitution est rapatriée. Par la même occasion, un amendement reconnaît les droits issus des traités. Les gouvernements fédéral et provinciaux sont obligés de consulter les Premières Nations avant de prendre des mesures pouvant affecter les droits des Autochtones. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2010 force le gouvernement canadien à agir, malgré le fait qu'elle ne sera ratifiée qu'en 2016. Des litiges fondés sur la discrimination sexuelle sont adressés en 2011 et en 2016, la Cour suprême ajoute les Métis et les Inuits dans la définition légale d'un Indien. La loi sur les Indiens sera ensuite amendée en 2017 et en 2019 pour corriger les litiges basés sur le sexe, établissant donc une égalité entre les droits des femmes et les droits des hommes. Malgré tout cela, encore aujourd'hui, le ministre des Affaires autochtones demeure la figure d'autorité supérieure dans tout changement législatif au sein des Premières Nations. Lors d'une entrevue en fin d'année 2021, le premier ministre Justin Trudeau a réitéré ce qu'a dit Randy Lynn de Nenemaru Candline, la loi sur les Indiens est là pour rester, mais les temps changent et les progrès continuent. Ici Vincent Lavoie pour IJL à Plamondon.